Chapitre 5. Glace-feu. Voici l'histoire de Izal Chausse-Foc et du dragon Glace-feu, et de ce qui lui arriva au temps où Vizal était grande-mère de sa maison maternelle. Vizal se prit d'aversion pour un jeune homme qu'Izal avait ramené chez elle pour coucher avec lui, et ce pour trois raisons. Il avait les jambes marquées et la poitrine creuse. Or, chacun sait que ces traits risquent de se transmettre aux enfants. Et Vizal ne souhaitait pas voir sa maison pleine d'avortons aux jambes torses. Il était roux, affliction que Vizal ne désirait pas non plus retrouver chez ses descendants. Et enfin, lorsque le printemps débarquait dans les îles et que les saules ployaient sous les chatons, il éternuait, larmoyait, toussait et se montrait incapable d'accomplir aucune tâche de toute la saison. Aussi, lorsque Izal s'en alla un jour d'été récolter des myrtilles sur les hautes pentes de la montagne, Vizal ordonna aux autres femmes de faire moisson de mottes de terre et de pierres assez petites pour faire mal sans provoquer de blessures graves afin de chasser le compagnon de lit d'Izal. Ses sœurs, sa mère et ses tantes acceptèrent d'enthousiasme, car aucune n'aimait sa manière de leur sourire bêtement quand Izal était absente. Quand elle revint et trouva son compagnon disparu, elle pleura, tempêta et finit par jurer d'aller voir le dragon pour demander vengeance contre sa famille. Chacun sait que c'est là grand péché contre une maison maternelle, mais son courroux était si violent qu'on ne put la raisonner et qu'elle refusa le jeune guerrier robuste aux cheveux noirs qu'on lui proposa pour remplacer son godelureau pâle et décharné. Elle gagna Slévial, attendit la marée annuelle, puis se glissa sous la voûte du glacier pour s'enfoncer dans son cœur et prier le dragon de lui accorder son terrible vœu. Loin sous la surface de la calotte glacée qui coiffe l'île, elle échoua sa frêle embarcation sur une grève limoneuse. Elle leva sa torche, mais ne perdit pas de temps à s'émerveiller des splendeurs du tombeau de glace-feu, descendit de son esquif et s'engagea dans les sinueuses galeries bleues pour parvenir à l'endroit où elle verrait le dragon prisonnier. Là, elle ménagea un creux dans la glace en y faisant couler le sang chaud de l'agneau qu'elle avait apporté, et elle implora le maître des lieux de rendre stérile toute celle qui l'avait privée de son compagnon. Traduction d'une ballade outrilienne par Tom Blaireau. Je garde du restant de cette nuit-là et du jour suivant le souvenir que l'on conserve de rêves enfiévrés. Mon esprit renacle à se remémorer le désespoir que j'endurais.
« C'était entièrement dans ta tête, »
me dit Humbre quelque temps après, et je me vexais qu'il m'éconnût avec tant de désinvolture ce que j'avais souffert. J'eus envie de lui répondre « Toute la vie se passe dans la tête. Sinon, où se déroule-t-elle? Où faisons-nous la somme de ce qu'elle signifie pour nous et soustrayons-nous ce que nous avons perdu? Un événement demeure un simple événement tant que personne n'y attache de sens. » Je survécus. Celui qui établit une distinction entre un produit comme l'écorce elfique et un poison n'a jamais été plongé dans les abîmes que je sondais. Au cours de la nuit, Humbre envoya Crible me chercher. Le jeune garde me mit une couverture sur les épaules et me ramena chez le prince, pieds nus et vêtu de ma ridicule robe d'ancien. Là, si ma mémoire est bonne, je passai plusieurs heures à expliquer à Humbre à quel point je me méprisais. Plus tard, de voir ma voix, n'avoir jamais subi de la part de personne inventaire plus assommant de péchés imaginaires, et à plusieurs reprises, je m'en souviens, il tenta de me raisonner. Je parlais de me suicider, perspective que j'avais souvent envisagée de façon fugitive, mais dont je ne m'étais jamais ouvert à quiconque. Cette idée d'un sentimentalisme larmoyant emplit de voires de répulsion, et Humbre me fit observer qu'il s'agirait d'un acte égoïste qui ne réparerait en rien ma bêtise. Je crois qu'il en avait plus qu'assez de ma compagnie à ce moment-là. Et pourtant, je n'y étais pour rien. C'est la mélancolie induite par la drogue et non une volonté réfléchie de ma part qui me poussa à m'épancher ainsi toute la nuit jusqu'à l'aube incluse. Au matin, de voir en savait beaucoup plus sur mes excès de jeunesse que je n'avais voulu lui en apprendre. S'il avait jamais été tenté de goûter à l'écorce elfique ou à la graine de carie, je pense que cette longue soirée le guérit de sa curiosité. Quand Lourd n'en put plus de m'entendre m'apitoyer sur mon sort, on fit venir Crible pour qu'il l'accompagne à la tente du clan de Vif, où Tram le prit en main et l'installa pour la nuit. Humbre et Devoir avait prévu d'essayer de contacter Horty ce soir-là, mais mon indisposition leur interdit de se concentrer. Avant le départ de Lourd, ils tâchèrent de me joindre ensemble par l'art, sans plus de résultat que le fou. Quand j'appris à Humbre la tentative que nous avions effectuée, il s'assombrit. Il désapprouvait que j'eusse entrepris cette expérience avec l'homme au teint fauve. Le lendemain, Crible et Tram nous encadrèrent, Lourd et moi, pour le trajet du jour. J'ai la conviction qu'Humbre avait assigné cette tâche au jeune garde, mais que le marin m'accompagna de son propre chef. Aujourd'hui encore, je me demande ce que le simple d'esprit avait pu lui dire pour qu'il jugeât nécessaire de s'occuper de moi. Je marchais, muet, plongé dans un accablement noir, au milieu d'un tourment sans fin de glace brillante et de neige doucement soufflée par la brise. Crible et Lourd avançaient en tête, échangeant un mot de temps en temps. Tram me suivait et ne disait rien. L'été avait repris son empire, et le vent qui sculptait des formes fantastiques dans les dunes était léger et presque chaud. Je me rappelle que Risque décrivit deux cercles au-dessus de nous, poussa un cri désolé, puis retourna vers la mer. La présence de la bête de Vif de Tram me rappela cruellement l'absence de la mienne et me jeta dans de nouveaux abysses de douleur. Je ne sanglotais pas, mais les larmes ruisselaient sans cesse sur mes joues. L'émotion peut exténuer plus que l'effort physique. Quand Péotre annonça que nous allions monter le camp, plus rien ne m'apportait. Toute volonté disparue, je regardais mes compagnons dresser les tentes. Je conserve vaguement le souvenir que le Kaempra s'excusa auprès d'Humbre que son pain de courage m'eût ainsi frappé d'incapacité. Le vieillard accepta ses regrets d'un air dégagé en répondant que j'avais un tempérament imprévisible et une tendance marquée à abuser des herbes stupéfiantes. Je compris le motif de cette explication, mais elle me poignit quand même le cœur comme une dague. Je n'eus pas le courage d'avaler une cuillerée du gruau que Tram m'apporta et allai me coucher alors que tout le monde était encore debout. Les yeux ouverts dans la pénombre de la tente, je m'efforçais de comprendre pourquoi mon père avait couché avec ma mère. Il me semblait qu'ils avaient commis là un acte terrible. Dehors, j'entendis Tram jouer pour Lourd de son instrument, et la musique d'art du drôle de petit homme me manqua tout à coup. Je dus finir par sombrer dans un profond sommeil. Quand j'émergeais, le jour était levé depuis longtemps. Autour de moi gisaient les paillasses en désordre et désertes des hommes d'armes. Pourquoi ne m'avait-on pas réveillé? Pourquoi n'avait-on pas levé le camp et repris la route? Frissonnant de froid, je m'extirpai de mes couvertures, fis la grimace en remarquant la robe que je portais et enfilai rapidement mon manteau et mon pantalon. Je fourrai le vêtement du fou dans mon paquetage en continuant de m'interroger sur le silence qui régnait dans le bivouac. Je redoutais que le temps ne nous eût forcés à retarder notre départ. À ma sortie de la tente, un vent tiède et régulier m'accueillit, chargé de fins cristaux de neige emportés de l'épaulement du glacier qui nous dominait. Le camp paraissait désert. Tram surveillait une casserole posée sur un trépied au-dessus d'un petit feu qui brûlait dans une jatte d'argile. Le récipient s'enfonçait peu à peu dans la neige que sa chaleur faisait fondre.
« Ah, vous voici debout !»
dit le marin avec un sourire de bienvenue.
« J'espère que vous allez mieux. »
Oui, répondis-je, en m'apercevant avec un certain étonnement que c'était vrai.
Les ténèbres irraisonnées qui m'accablaient la veille avaient disparu. Certes, je ne me sentais pas d'humeur primesautière, la perte de mon arme pesait toujours et la tâche qui nous attendait m'effrayait, mais le profond désespoir qui m'avait conduit à souhaiter mettre fin à mes jours s'était dissipé. Lentement, une colère sourde commença de monter en moi. J'en voulais à Péotre de ce qu'il m'avait fait subir. Je le savais, la stratégie d'Humbre m'interdisait toute vengeance, mais je refusais de croire que ce pain contenait la quantité ordinaire d'écorce elfique que les Outriliens consommaient sans souffrir de terribles contre-coups. Non, on m'avait empoisonné volontairement, et j'espérais qu'avant notre retour dans les Six-Duchés, le sort me fournirait l'occasion de régler mes comptes avec Péotre.
Toute ma formation d'assassin me défendait le luxe de la revanche. Depuis que le roi subtil m'avait fait jurer allégeance, on m'avait enseigné que mes talents servaient selon la volonté de la couronne, non suivant mes jugements ni mes ressentiments personnels. Une ou deux fois, je m'étais écarté de cette ligne de conduite, toujours avec des résultats désastreux. Je me répétais cela en scrutant les alentours. Notre camp se dressait sur une pente douce. Non loin, une barre de roche noire perçait, déchiquetée, la surface de la neige. Un pic abrupt se dressait au-dessus de moi. On eût dit une tasse ébréchée. Ça et là, des affleurements de pierres obscures crevaient le manteau neigeux, dont la cuvette dégorgeait une cascade gelée qui descendait vers nous, et dont nous avions installé le bivouac sur le dernier replat, le plus horizontal.
« Vous êtes bien silencieux, » fit Trame avec sollicitude. « Souffrez-vous ?»«
Non. Merci de vous en inquiéter. J'ai simplement de nombreux sujets de réflexion. »
« Et vous avez perdu votre magie d'art. »
Devant le regard que je lui lançais, il leva une main apaisante.
« Personne d'autre n'est au courant de votre secret. C'est Lourd qui me l'a révélé sans le faire exprès. Vous le préoccupiez beaucoup, vous l'agaciez aussi, mais il se rongeait sur tous les sangs pour vous.
Hier soir, il m'a expliqué qu'il ne s'effrayait pas seulement de votre humeur morose, ni de votre flot de paroles incessant et de votre agitation irrépressible, mais aussi du fait que vous aviez disparu de son esprit. Il m'a raconté une anecdote de son enfance. Un soir, lors d'une foire, sa mère a lâché sa main au milieu de la foule. Il est resté perdu plusieurs heures, incapable de la retrouver ni visuellement, ni mentalement. D'après certains détails, je pense qu'elle l'a abandonnée. Puis qu'elle s'est ravisée plus tard et mise à sa recherche. L'important toutefois est qu'après de laborieuses descriptions de sa part, j'ai fini par comprendre qu'il savait sa mère non loin de lui, mais qu'elle refusait tout contact mental.
Dans votre cas, il ne sent qu'une absence, comme si vous étiez aussi mort que sa mère aujourd'hui. Or, il vous voit et vous entend, bien vivant. Vous lui faites peur maintenant.
Je dois lui apparaître comme un forgisé. Le visage de Trame se crispa en une expression compatissante. Je compris qu'il avait affronté la présence glaçante de forgisé, car il dit
« Non, mon ami, je vous perçois toujours par le vif. Vous n'avez pas perdu cette magie-là. »
« Mais à quoi me sert-elle sans compagnon ? » fis-je avec amertume. Il se tut un instant, puis déclara d'un ton résigné.
« Ça aussi, je pourrais vous l'enseigner, si vous trouvez un jour le temps d'apprendre. »
Je ne vis guère quoi répondre. Aussi posai-je une question. « Pourquoi n'avons-nous pas encore repris notre marche aujourd'hui ?» Il me dévisagea d'un air intrigué, puis sourit.
« Nous sommes arrivés, mon ami. Nous ne bivouaquerons pas plus loin. » Selon Péotre, on devrait pouvoir distinguer vaguement le dragon dans la glace près d'ici. Le prince de Voir, Imbre, et les autres accompagnent le Kaempra et la Narchesca sur les lieux. Les témoins du Edgur les suivent, là-haut. Et il tendit le doigt.
Le glacier présentait un aspect trompeusement poli. Là où il paraissait lisse et uniforme, de nombreuses ondulations plissaient sa surface. Le groupe, semblable à une colonne de fourmis, gravissait ses pentes supérieures. Je repérais Péotre en tête à ses fourrures, la Narchesca derrière lui. Toute l'expédition montait à leur suite. Seul Trame et moi demeurions au camp, comme j'en fis la remarque au maître de Vif.
Je ne voulais pas que vous vous trouviez seul à votre réveil. Crible affirmait que vous aviez parlé de mettre fin à vos jours.
Il secoua la tête. Le visage fermé,
je vous tenais en plus haute considération. Toutefois, étant donné votre accablement d'hier, j'ai préféré ne pas courir de risques.
Je n'ai aucune envie de me suicider. Ce n'était qu'une folie passagère, l'expression de l'écorce elfique et non celle de ma pensée propre. À dire le vrai, en songeant aux propos échevelés que j'avais tenus la veille, j'avais honte d'avoir seulement évoqué pareille idée. On a toujours regardé le suicide comme un geste de lâcheté dans les six duchés.
Et pourquoi prenez-vous cette substance alors que vous savez l'effet qu'elle a sur vous ?
Demanda-t-il d'un ton sévère. Je me mordis la langue. Que lui avait raconté Imbre sur ma crise d'abattement ? Je m'en suis servi par le passé en cas de douleur insupportable ou de profond épuisement, répondis-je à mi-voix. Mais cette fois-ci, la dose était beaucoup plus considérable que je ne le pensais. Tram poussa un long soupir.
« Je vois, »
dit-il. Il n'ajouta rien, mais je perçus nettement sa désapprobation. Je terminai le ragoût qui se figeait au fond de la marmite, préparation outrilienne qui dégageait une épouvantable odeur de marée. À une soupe faite de poisson cuit coupé en cubes visqueux, quoique séché, et broyé dans une huile qui servait de liant, on ajoutait de l'eau et on chauffait pour obtenir un épais magma nutritif. Malgré le goût atroce, je me sentis davantage moi-même après avoir mangé. Néanmoins, je ressentais toujours comme une étrange absence autour de moi, qui ne tenait pas seulement au fait que la musique de l'ours s'était tue. J'avais pris l'habitude des fils de conscience qui me rattachaient à Devoir, Imbre, Le Fou et Orti, et je me retrouvais soudain coupé de ce réseau. Après m'être restauré, je nettoyai la marmite, puis je couvris le petit feu dans sa jatte d'argile, sans grand espoir qu'il survivrait. Alors Tram fit
« Allons rejoindre les autres, d'accord ?»
J'opinai d'un air lugubre. Péotre avait marqué la piste, à gauche et à droite, à l'aide de bouts de bois enfoncés dans la neige et surmontés de morceaux de tissu rouge vif. Nous suivîmes le chemin qui montait en lacets sur le glacier. Tout d'abord, nous gardâmes le silence, puis Tram commença de parler, et je finis par l'écouter.
« Vous vous demandiez à quoi sert le vif quand on n'a pas de compagnon. Je comprends que vous pleuriez encore votre loup, et je trouve ça normal. Vous baisseriez dans mon estime si vous vous précipitiez dans une nouvelle relation à seule fin de soulager votre sentiment de solitude. On n'agit pas ainsi dans le lignage. » Pas plus qu'un veuf ne doit épouser quelqu'un uniquement pour donner une mère à ses enfants orphelins et réchauffer son lit. Vous avez donc raison d'attendre. Mais, entre-temps, vous ne devriez pas tourner le dos à votre magie. Vous nous adressez peu la parole, à nous autres vifiers. Ceux qui ignorent que vous possédez notre don croient que vous nous évitez par mépris. Leste compris. Même si vous ne souhaitez pas leur révéler votre appartenance au lignage, je pense que vous auriez intérêt à rectifier cette impression. Je ne comprends pas tout à fait pourquoi vous faites mystère de vos deux magies. La reine a déclaré qu'elle n'acceptait plus la persécution des vifiers, et j'ai pu constater que sa protection vous est acquise dans tous les cas. Quant à la magie des loin-voyants, l'art, ma foi, elle a toujours joui d'une réputation honorable et d'une grande considération dans les six duchés. Pourquoi cacher que vous l'employez au service de votre reine et de votre prince ?
Je feignis l'essoufflement pour ne pas répondre aussitôt. La pente était raide, mais la gravure ne m'épuisait pas à ce point. Pour finir, je cédais au silence de Tram. Je risquerais de trahir trop d'éléments de mon identité. Quelqu'un emboîterait les pièces, me verrait et dirait « Le bâtard au vif et vivant, l'assassin du roi subtil, le champi ingrat, meurtrier du vieillard qui l'avait pris sous son aile. Je ne pense pas que la politique de tolérance envers les vifiers, mise en place par notre souveraine, soit en mesure de supporter un tel coup.
Vous terminerez donc vos jours sous le nom de Tom Blaireau.
Ça me paraît probable. En vain, j'avais tenté de m'exprimer sans amertume.
Vous sentez cela ?
Me demanda soudain Tram. Je sens, en effet, que c'est le plus sage, sinon le plus facile, répondis-je avec réticence.
Non, non. Ouvrez votre vif, mon ami. Sentez-vous une présence. Une présence plus immense que tout ce que vous connaissez.
Je m'arrêtai, sans maudire. Le vif opère comme les autres sens. On s'habitue tellement au bruit quotidien ou à l'odeur des feux des cuisines qu'on cesse d'y prêter attention. Immobile, comme si je tendais l'oreille, je déployais ma conscience du tissu vivant qui m'entourait. Là, Tram, chaleureux, cordial, tout près. Plus loin, sur la piste, je percevais les autres, chapelet confus d'être, d'où émanaient diverses sensations de fatigue et d'inconfort. Je captais les vifiés avec un peu plus de netteté que les membres ordinaires du groupe. Je ne repérais nulle trace de l'oiseau de trame. Il devait se trouver au-dessus de la mer en train de se nourrir. « Non, rien d'inhabituel, » dis-je. Puis, je m'interrompis. Avais-je perçu quelque chose? Une montée démesurée et pourtant subtile du vif. J'eus l'impression d'une porte qui s'ouvrait et se refermait aussitôt. Sans un geste, je fermai les yeux. Non. Rien, déclarai-je en les rouvrant. Il scrutait mon visage.
Vous l'avez senti, dit-il, et vous le sentez encore. La prochaine fois, crochez-le.
Que je le croche? Il secoua la tête d'un air de regret.
Peu importe, il s'agit là d'une des choses que vous aurez un jour le temps d'apprendre auprès de moi.
Jamais il n'avait frôlé le reproche d'aussi près, et j'en fus piqué au vif, à ma grande surprise. Toutefois, je savais la réprimande méritée. Aussi, trouvant la force de me faire humble, je dis « Pourriez-vous profiter de cette marche pour m'expliquer ce dont vous parlez ?» Il me regarda, les sourcils levés dans une expression de fin étonnement.
« Mais bien sûr, Fitz, je le puis maintenant que vous me le demandez. » Choisissez quelqu'un dans le groupe devant nous, quelqu'un qui ne possède pas le vif, et j'essaierai de vous décrire la façon dont on s'y prend. Certains, dans le lignage, supposent qu'il s'agit du même processus qui permet aux prédateurs vivant en meute de choisir un élément d'un troupeau et de le désigner comme la proie commune. Peut-être avez-vous déjà vu de jeunes loups ou d'autres carnivores manquer cette première étape. Au lieu de sélectionner un animal, ils font sur la harde entière, et toutes les proies leur échappent. C'est d'ailleurs une des forces du troupeau. Ses membres se perdent dans la masse et se dissimulent ainsi au nez et à la barbe des chasseurs.
Ainsi commencèrent, bien tardivement, mes leçons avec trame. Le temps que nous rattrapions nos compagnons, j'avais réussi à isoler Humbre et à prendre conscience de sa présence, même quand il ne se trouvait pas dans mon champ de vision. Je sentis aussi par deux fois l'immense gonflement du vif, mais, à la différence de Trame, j'avais déjà perçu cette sensation par le passé. Je gardais toutefois ce détail pour moi, bien qu'il m'en coûtât. J'avais reconnu la présence d'un dragon. Je m'attendais à voir filer sur moi la grande ombre des ailes, car je ne voyais aucune autre façon d'expliquer que je perçoive un instant une si vaste créature, puis qu'elle disparaisse aussitôt de mon vif. Mais le ciel demeurait bleu, limpide et désert. Quand nous rejoignîmes les autres, ils s'abritaient de façon purement symbolique derrière un affleurement rocheux. Des runes outriliennes y étaient sculptées et formaient une ligne sinueuse qui se perdait dans la glace. Les témoins du Hedgurd se tenaient près du moutonnement de pierre, et ils ne cherchaient nullement à cacher leur mécontentement de se trouver là. Pourtant, la plupart affichaient une expression où se mêlaient aigreur et amusement, et je m'en demandais la raison. L'un d'eux, à genoux, creusait avec application la glace qui montait sur la roche. Pour cela, il se servait de son poignard, et il frappait le matériau résistant comme s'il eût voulu assassiner quelqu'un. Au bout d'une dizaine de coups, il dégagea de la main une quantité négligeable d'éclats de glace. Malgré la futilité apparente de cette entreprise, il la poursuivit avec acharnement. Les hommes de longue mèche avaient apporté leurs outils, pelles, piques et baramines, mais n'avaient pas encore commencé à les utiliser. Ils se tenaient prêts, l'air de s'ennuyer profondément comme tout bon soldat, et attendaient l'ordre de se mettre au travail. Pourquoi ne les avait-on pas encore attelés à la tâche ? Je ne m'interrogeais pas longtemps. Comme nous approchions, je vis Humbre et Devoir face à l'Anarchesca et à Péotre, les membres du clan de Vif non loin d'eux. L'ours était assis dans la neige derrière eux et fredonnait tout haut en hochant la tête au rythme de la mélodie.
« Oui, mais où ?»
demanda Humbre. Et au ton qu'il employa, il ne posait pas la question pour la première fois.
« Ici, » répondit Péotre avec patience. « Ici. »
D'un grand geste du bras, il désigna le petit plateau sur lequel nous nous trouvions.
Les runes gravées dans la pierre l'indiquent. Ici dort Glacefeu le dragon. Je vous ai conduit à lui comme nous étions convenus. Mais la Narcheska nous a accompagnés pour assister à l'accomplissement de votre tâche. C'est à vous de jouer maintenant. À vous de l'exhumer et de le décapiter. N'est-ce pas la mission que le prince a acceptée dans sa propre maison maternelle ?
Si, mais je ne pensais pas qu'il devrait réduire en miettes tout un glacier pour y parvenir. J'imaginais voir des traces qui nous indiqueraient où se situe le dragon, mais je n'aperçois que de la glace, de la neige et de la roche. Par où commencer ?
Piotr haussa les épaules. Par où vous voudrez ?
Un des représentants du Hedgurd eut un petit rire mordant à ces mots. Imbre parcourut les environs du regard d'un air presque affolé. Ses yeux se posèrent un instant sur moi, mais il ne parut pas juger que je pouvais lui apporter grand secours. Il se tourna de nouveau vers le Kaempra du Narval.
« La dernière fois que vous avez pu distinguer le dragon, où se trouvait-il ? »
L'autre secoua lentement la tête.
« Je ne suis venu que deux fois, en compagnie de ma tante et j'étais enfant. Elle m'avait amené pour m'enseigner le chemin, mais nous n'avons pas vu le dragon. Rien que l'inscription qui marque le lieu. Il y a au moins une génération que le dragon n'est plus visible sous la glace. »
Ces paroles semblèrent réveiller un souvenir chez le hibou, car il s'écarta soudain du groupe du Hedgurd pour s'approcher d'Imbre et déclara, avec un léger sourire, en hochant la tête. « Ma grand-mère l'a vue quand elle était petite fille. Je vais vous répéter ce qu'elle m'a dit, et peut-être y puiserez-vous quelque indice. Elle est montée ici avec la mère de sa mère pour déposer un présent à Glacefeu et demander une meilleure fertilité de nos brebis. Quand elles sont arrivées sur ce plateau, la mère de sa mère lui a indiqué une ombre tout juste perceptible à travers la glace, à l'heure où le soleil brillait de tout son éclat.
« La voici », a-t-elle dit à ma grand-mère. On le voyait beaucoup plus clairement autrefois, mais chaque année, la glace s'épaissit et il s'estompe. Aujourd'hui, on n'en aperçoit plus qu'une ombre, et un temps viendra où l'on doutera de son existence. Aussi, regarde bien, et fais en sorte qu'aucun de nos descendants ne nous humilie en mettant en question le savoir de sa propre famille. »
Le barde se tut aussi brusquement qu'il avait pris la parole. Les joues rougies par le vent qui faisait danser sa longue chevelure, il hocha de nouveau la tête, l'air satisfait.
« Et sauriez-vous alors où il nous faut chercher le dragon ?»
Le hibou éclata de rire.
« Je l'ignore, et je ne vous le révélerai pas si je le savais. »
« Par curiosité, fit le prince d'un ton affable, quelle offrande avez-vous faite au dragon ? Et comment l'a-t-il accepté ?»«
Du sang !» répondit aussitôt l'autre. « On a égorgé un mouton sur la glace et les mères ont étudié la forme de la flaque, sa façon de s'étaler ou de s'enfoncer. Elles ont jugé que le présent avait plu à Glacefeu, elles ont laissé la carcasse du mouton pour l'homme noir et elles sont rentrées chez elles. Le printemps suivant, nombre de nos brebis ont mis bas deux petits au lieu d'un et aucune n'a contracté la dysenterie. L'année a été excellente. »
Le hibou nous parcourut d'un regard acerbe.
Voilà la bonne fortune que nous obtenions en honorant Glacefeu. Déshonorez-le, doutez de lui, et je préfère ne pas imaginer le malheur qui s'abattra sur vos maisons.
Et sur les nôtres aussi, sans doute, à cause de notre présence,
ajouta le phoque d'un ton maussade. Sans les regarder, Piotr répondit.
Notre maison maternelle a d'ores et déjà accepté la responsabilité des conséquences de cette entreprise. Elle ne retombera pas sur vous.
« C'est toi qui le dis !» lança le hibou avec dédain. « Mais je doute fort que tu parles au nom de Glacefeu, toi qui veux le tuer pour satisfaire le caprice d'une femme. »
Imbre intervint à bout d'exaspération.
« Où est le dragon ?»
La réponse vint d'un interlocuteur inattendu.
« Ici ?» murmura l'Est.
« Ah oui, il est bien ici. Sa présence enfle et désenfle comme une marée folle, mais il n'y a pas à s'y tromper. »
L'enfant chancelait en parlant, et sa voix devenait lointaine. Niel posa la main sur son épaule, et Tram me quitta pour se précipiter près de lui.
« Regarde-moi,
fit-il avec autorité, et comme le garçon restait presque sans réagir, il le secoua rudement.
« Regarde-moi »
répéta-t-il d'un ton pressant et ferme à la fois.
« Leste, tu es jeune et tu ne t'es jamais lié. Tu ne comprends peut-être pas ce que je te dis, mais demeure en toi-même. Ne le rejoins pas et empêche-le de pénétrer en toi. La présence que nous captons est magnifique et formidable, mais ne te perds pas dans sa contemplation. Je perçois chez cette créature le charme d'un félin. » Une ruse séductrice, capable de lier un enfant, qu'il le veuille ou non.
Vous sentez le dragon? Il est ici, et vivant.
Imbre n'en croyait pas ses oreilles.
Oh oui,
répondit Devoir malgré lui. Je pris soudain conscience de sa pâleur, alors que le froid rougissait les joues de tout le monde. Figé, un peu en retrait du groupe, il regarda la Narcheska.
Le dragon glace-feu se trouve bien ici. Et il vit, même si j'ignore comment cela est possible.
Il se tut, comme plongé dans de profondes réflexions, et son regard devint lointain.
Je parviens tout juste à effleurer son esprit. J'essaye d'entrer en contact, mais il ne me prête aucune attention. Je ne comprends pas. J'ai conscience de lui un instant, puis il me glisse aussitôt entre les doigts.
Je m'efforçais de rester impassible, tandis que le prince révélait inconsidérément qu'il possédait le vif. Je m'étonnais aussi que son vif perçût apparemment le dragon, alors que je n'en recevais qu'un faible écho. Quelque temps auparavant, j'avais découvert que le prince disposait d'un talent moindre que le mien. Ses leçons avec Tram l'avaient-elle affûté? Puis, une autre possibilité me vint à l'esprit et me laissa interdit. Parlait-il du vif ou bien de l'art? Dans mes rêves, Tintaglia m'avait contacté par cette dernière magie, et, selon toute vraisemblance, elle l'avait employée aussi pour dénicher Orti. Je me tournai vers Imbre. Le vieil homme paraissait à la fois absorbé dans ses pensées et bouillonnant de colère. Ce fut la vue de Lourd qui emporta ma conviction. Il semblait complètement perdu dans la mélodie qu'il fredonnait en marquant la cadence de la tête. Comme j'aurais voulu pouvoir entendre sa musique d'art, et encore plus l'obliger à dresser ses murailles d'art. Jamais je n'avais vu le petit homme aussi extatique.
« Ne cherchez pas à entrer en contact avec lui !»
lança Tram au prince, sans considération pour son rang.
« Des légendes, de très anciens contes du vif, parlent du pouvoir de fascination des dragons. » On les dit capables de s'emparer des esprits sans défense et d'inspirer à leurs victimes une dévotion d'esclaves. Les ballades d'antan mettent en garde contre le fait de respirer leur haleine.
Il pivota soudain et m'évoqua un commandant donnant ses ordres à ses troupes quand il s'adressa à Niel.
Tu connais la chanson dont je parle, n'est-ce pas? Il serait bon que tous l'entendent ce soir. Dans ma jeunesse, je n'accordais guère d'intérêt à ces vieux airs, mais avec l'âge, j'ai appris que les poèmes d'autrefois recelaient souvent beaucoup de vérité. J'aimerais l'écouter à nouveau.
« Moi aussi !» déclara Imbre de façon inattendue, « ainsi que tous ceux de votre répertoire qui touchent à ce sujet. Mais pour le moment, si le clan de Vif est en mesure de détecter le dragon, peut-être nous indiquera-t-il où commencer à creuser ?»
Pour que vous le tuiez une fois dégagé? Non, moi je refuse.
Leste avait jeté ces mots avec une passion brusque et véhémente. Je ne lui avais jamais vu une expression aussi angoissée. Imbre se tourna d'un bloc vers lui.
Aurais-tu déjà oublié ton serment d'obéissance à ton prince?
L'enfant resta à court de mots. Il rougit, puis blêmit. Il cherchait visiblement à déterminer où allait sa loyauté, et j'aurais voulu pouvoir l'aider. Je savais, mieux que quiconque peut-être, le dilemme qui le déchirait.
« Arrêtez !»
dit Tram au vieil assassin qui fixait sur le jeune garçon un regard dur.
« Cela ne vous regarde en rien !»
répliqua Imbre, et pour la première fois, je vis la colère se manifester chez le maître de Vif. Ses muscles se nouèrent et sa poitrine s'enfla. Il se domina, mais je sentis ce qu'il lui en coûtait. Mon prince également.
« Arrêtez !»
Devoir avait repris le mot de Tram, mais en y ajoutant l'inflexion d'un ordre royal.
« Leste, calme-toi.
Je ne doute pas de ta fidélité envers moi. Je refuse de mettre ainsi à l'épreuve celle de quiconque, en le forçant à choisir entre ce que son cœur sent juste et le devoir que lui impose son allégeance. Je n'estime pas que mon honneur me permet de le charger d'un tel fardeau. De plus, dans le cas présent, ma conviction n'est pas absolue. » Et il se tourna tout à coup vers la Narcheska. Elle continua de contempler la plaine neigeuse en contrebas. Avec surprise, je le vis aller se placer devant elle. Piotr s'avança d'un pas, comme pour intervenir, mais Devoir ne fit pas un geste vers elle, et dit à mi-voix. « Voulez-vous me regarder, s'il vous plaît ?» Elle leva le menton et plongea ses yeux dans les siens. Elle resta impassible en dehors de l'étincelle de défi qui scintilla brièvement dans son regard. Pendant un moment, Devoir se tut comme s'il espérait qu'elle prendrait la parole de son propre chef, et l'on n'entendit plus rien, hormis le murmure du vent qui déplaçait les cristaux de neige sur le glacier et le crissement des bottes des gardes qui attendaient de se mettre à la tâche. Même le fredonnement de l'ours avait cessé. Je jetai un coup d'œil au petit homme. L'air perplexe, il paraissait chercher à saisir un souvenir évanescent. La Narcheska persistant dans son silence, Devoir soupira. « Vous en savez davantage sur ce dragon que vous ne m'en avez jamais révélé. Pour ma part, je n'ai jamais pris la quête que vous m'aviez confiée pour le défi d'une jeune fille à son prétendant. Ce que vous me demandez n'a rien d'un caprice, n'est-ce pas ? Refuserez-vous de me dévoiler la mesure véritable de l'épreuve que vous m'imposez afin que je puisse juger par moi-même de la meilleure décision à prendre ? » Je crus qu'il l'avait gagnée à sa cause jusqu'à cette dernière phrase. Il me sembla percevoir l'angoisse de la Narcheska à l'idée qu'il pût reculer devant l'exécution de sa promesse. Se détournant de la franchise qui l'avait tentée un instant, elle répondit par une pique digne d'une jeune aristocrate élevée à la cour. « Est-ce ainsi que vous tenez vos serments, prince ? Vous avez affirmé que vous accompliriez cet acte. S'il vous effraie à présent, dites-le clairement, afin que tous, ici, sachent à quel moment votre courage vous a fait défaut ?» Elle s'exprimait d'un ton provoquant, mais sans conviction. Je m'en aperçus et Devoir aussi. Je pense qu'il le ressentit d'autant plus douloureusement qu'elle cingla son amour-propre de façon aussi impitoyable, et que cela ne vint même pas de son cœur. Il prit une grande inspiration et carra les épaules. « Je reste fidèle à ma parole. » Non, ce n'est pas tout à fait la vérité. Je vous ai donné ma parole et vous décidez de la garder. Vous pourriez me la rendre et me délier de cette tâche, mais vous vous y refusez. Aussi, par l'honneur des maisons de ma mère et de mon père, je ferai ce que j'ai juré. » Tram intervint. « Il ne s'agit pas d'un cerf que vous chassez pour vous nourrir, mon prince, ni même d'un loup que vous abattez pour protéger vos troupeaux. Vous avez affaire à une créature aussi intelligente que vous, si l'on en croit les légendes, qui ne vous a fourni aucun motif de la tuer. Vous ne pouvez pas ignorer. » Il se tut brusquement. Malgré sa colère, il ne voulait pas trahir que le prince possédait le vif. « Vous ne pouvez pas ignorer ce que je vais vous dire. Glacefeu est vivant. Je ne sais pas comment cela se peut, ni quelle est la vigueur de l'étincelle qui demeure en lui. Il clignote dans ma conscience comme la dernière flammèche d'un feu mourant. Peut-être n'avons-nous parcouru tant de chemin que pour assister à son trépas. Il n'y aurait aucun déshonneur à cela. Or, je vous côtoie depuis assez longtemps pour vous croire incapable de tuer une créature gisant sans défense à vos pieds. Peut-être me prouverez-vous le contraire. Je ne le souhaite pas. Mais, » et il se tourna vers ses compagnons vifiés, « si nous ne répondons pas à la demande du prince de l'aider à découvrir le dragon, si nous ne dégageons pas Glacefeu de la glace qui l'enserre, je crois qu'il mourra aussi sûrement que si notre prince lui tranchait la tête. » Agissez selon votre conscience. Moi, je n'hésiterai pas à employer la magie que m'a octroyée Eda pour trouver la prison du dragon et l'en délivrer. » Il baissa la voix.
Naturellement, j'y parviendrai beaucoup plus facilement si vous m'aidiez tous.
Pendant ces échanges, la délégation du Edgurd s'était tenue à l'écart. Je lançai un regard dans sa direction et n'éprouvai qu'une surprise modérée en voyant le fou non au milieu, mais près d'elle, comme pour manifester de quel côté penchait son allégeance. Le hibou, le barde, affichait une expression attentive que je connaissais bien pour avoir fréquenté Astérie. Chaque parole prononcée se gravait dans sa mémoire pour trouver plus tard sa place dans la cadence heurtée de la versification outrilienne. L'angoisse le disputait à la spéculation sur les visages de ses compagnons. Tout à coup, l'ours, leur chef, se frappa la poitrine du poing pour attirer l'attention générale.
« Ne nous oubliez pas, nous, ni la raison de notre présence. Si vos magiciens disent vrai, que le dragon vive toujours mais faiblement et que vous l'exhumiez, nous nous en porterons témoins. Et si ce prince fermier des six duchés tue notre dragon alors qu'il est affaibli et incapable de se battre, la fureur de tous les clans s'abattra non seulement sur ceux du narval et du sanglier qui auront sanctionné cet acte de lâcheté, mais aussi sur les six duchés. Si le jeune prince croit ainsi nouer une alliance et prévenir tout risque de guerre future avec les habitants des runes du Dieu, qu'il sache qu'il ne s'y prend pas de la manière convenue. Il devait affronter notre dragon en combat loyal, non lui couper ignominieusement la tête alors qu'il gît à bout de force. Il n'y a aucun honneur à s'emparer d'un trophée sur un guerrier mourant qu'on n'a pas soi-même abattu. »
Le fou n'avait pas fait un geste pendant toute cette déclaration, et pourtant on eût dit à son attitude que l'homme parlait en son nom. Ni son maintien, ni son expression n'exprimaient la raideur ni l'opposition. Au contraire, il observait intensément de voir, prophète blanc qui jaugeait l'opposant éventuel à sa mission. Réorienter le monde vers une meilleure voie. Son regard me glaça. Comme s'il avait senti mes yeux posés sur lui, il porta les siens vers moi. Et je déchiffrais sans mal leurs questions. Que ferais-je? Que choisirais-je? Je détournai le visage. Je ne pouvais pas choisir tout de suite. Je songeais qu'en voyant le dragon, je saurais. Et au fond de moi, une voix couarde ajouta en murmurant: « S'il meurt avant que nous le dégagions, tout sera réglé. Je n'aurai pas à me dresser contre Imbre, ni le fou. » Je ne tirai aucune consolation de l'idée qu'ils se doutaient certainement l'un et l'autre de ce secret espoir. Péotr répondit à l'ours, à la manière lasse de celui qui explique la même chose pour la centième fois à un enfant buté.
« La maison des mères du narval accepte de prendre sur elle toutes les conséquences. Si le dragon s'élève contre nous et maudit nos descendants, qu'il en soit ainsi. Si nos familles et nos amis se tournent contre nous, qu'il en soit ainsi. Nous acceptons le destin que nous attirons sur nous. »
« Tu peux engager ta parole !» s'exclama l'ours avec colère. « Mais ni ta parole, ni tes gestications ne peuvent engager Glacefeu. Qui sait si sa vengeance ne s'abattra pas sur tous ceux qui auront assisté à sa trahison ?»
Péotre baissa les yeux et se perdit dans la contemplation de la neige devant lui. On eût dit qu'il rassemblait ses forces pour ajouter un nouveau fardeau à la charge qu'il portait déjà. Puis, il déclara lentement, en articulant clairement comme s'il déclamait les réponses d'un rite, bien que ses propos fussent prosaïques.
« Quand l'heure viendra de choisir son camp, levez vos armes contre moi. Je prête serment de les affronter toutes, et si je suis vaincu, que chacun trempe sa lame dans mon corps avant que je meure. »
Dans le courant de ce discours, un hoquet de saisissement avait échappé à Eliania, et elle s'était précipitée, comme pour se placer devant lui. Il la repoussa avec une rudesse que je ne l'avais jamais vue employer avec elle, et il l'atteint à distance, la poigne fermement serrée sur son bras, comme pour l'écarter du destin qu'il venait d'accepter. Secouée par des sanglots ou des cris réprimés, je ne sais, elle cacha son visage dans ses mains pendant qu'il poursuivait.
« Si les légendes ne mentent pas sur Glacefeu, il reconnaîtra que vous avez pris sa défense et ne vous regardera pas comme responsable de nos actions. Cela vous satisfait-il ?
Piotr se tut et, attirant brusquement Eliania, il la serra contre lui. Penché sur elle, les lèvres dans ses cheveux, il lui murmura des paroles de réconfort que je n'entendis pas. Une effrayante gravité avait figé les traits des Outriliens à l'énoncé du serment de Piotr en de Noir, et une fois encore, je me demandais si un élément inconnu de leur culture ne m'avait pas échappé. J'avais le sentiment qu'il les avait à nouveau liés en même temps que lui-même. S'attachait-il un déshonneur à ce qu'il leur proposait? Je l'ignorais, et me voyais réduit aux conjectures. Devoir était blanc comme un linge. Imbre observait la scène en silence, sans bouger. Edda, que j'aurais voulu avoir retrouvé mon art. Il me semblait que les dés pouvaient désormais retomber selon un nombre de configurations soudain multipliées. Si nous exhumions un dragon mort, s'il était vivant, s'il se battait, s'il ne se battait pas, si nous le tuions et lui tranchions la tête, mais que Piotr mourût en tenant sa promesse, je me surpris tout à coup à voir les témoins du Hedgurd comme des guerriers, à estimer lequel je pouvais éliminer à la loyale et lequel en traître. Un coup d'œil me montra Longuemèche en train de donner discrètement des ordres à ses hommes. L'un d'eux ne quitterait sans doute plus le prince d'une semelle, de nuit comme de jour. Mais plus étrange que tout, peut-être, était l'attitude de Tram, Niel, Lest et Civil. Sans s'occuper de nous, ils déambulaient sur la glace, se croisaient et se recroisaient en observant attentivement le sol comme si chacun avait perdu un diamant et cherchait à le distinguer du scintillement de la neige. Le premier, Tram, s'arrêta sur un point précis et demeura immobile, sans rien dire. Lest limita une dizaine de pas plus loin, à une longueur de bateau de là. Civil descendit prudemment une pente glissante et se figea à son pied. Niel fut le dernier à trouver sa place. L'air hésitant, il se déplaçait avec lenteur, les mains tendues comme pour sentir une chaleur là où elle ne pouvait exister. Peu à peu, il s'écarta de ses compagnons et finit par s'immobiliser à une quinzaine de pas de Tram. Il leva un regard interrogateur vers ce dernier comme pour demander validation, et le maître de vif hocha la tête. « Oui, je crois que tu as raison, il est immense, plus grand qu'aucune créature que j'ai jamais vue. Je le perçois le plus fort sous mes pieds, mais j'ignore si c'est là que bat son cœur ou que repose sa tête. Peut-être même s'agit-il seulement du bout de sa queue proche de la surface. Que chacun de vous marque son emplacement. Puis rejoignez-moi et dites-moi si vous confirmez mon jugement. » Niel ôta une moufle et la laissa tomber à ses pieds, tandis que Civil plantait son bâton de marche dans la neige. Puis tous convergèrent avec précaution vers Tram. Devoir et moi échangeâmes un regard et les imitâmes, mus apparemment par la seule curiosité. J'observais l'expression du prince, mais je ne pense pas qu'il fût aussi perceptif que moi de la sensation que je captais. Elle allait et venait, vacillant comme une bougie à demi noyée. Même quand j'arrivais près de Tram, mon impression du dragon resta intermittente. Toutefois, je tombais d'accord avec le maître de vif. Quand je sentais la créature, c'était là que le flux de vif enflait le plus. Les membres du clan de vif avaient gardé les yeux baissés, comme si leurs regards pouvaient traverser la glace. L'un après l'autre, ils les relevèrent, et Devoir attendit que ceux de Tram croisent les siens. J'ignore ce qui se passa entre eux lors de cet échange, peut-être se mesurèrent-ils réciproquement. Mais, quand Tram hocha lentement la tête, le prince courba légèrement le cou en signe d'acquiescement. Il se tourna vers Imbre. « Nous commencerons à creuser ici, » dit-il.